cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Par rapport à cette quête justement que vous avez évoquée tout à l'heure, notamment par rapport aux enregistrements, c'est sûrement de la personne de sa stature en classique, un de ceux qui a le plus enregistré. Il a même un peu suivi, j'allais dire, la vie du disque. Vous avez évoqué les différents supports. Il était passionné par ça. Qu'est-ce qui le motivait en plus de cette perfection? C'était quoi? C'était de laisser des traces? Pourquoi tant d'enregistrements? Il y a eu des années où le nombre d'enregistrements était vraiment impressionnant.
D'abord parce qu'il avait un formidable éclectisme. Mais un éclectisme qui allait bien au-delà du domaine classique. Par exemple, si je vous dis que nous avons été un nombre important de fois entendre Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, il adorait les Beatles, il adorait les Rolling Stones, il adorait le jazz. Il n'en faisait pas lui-même, mais il avait une espèce de passion pour le piano. Il avait une passion pour la petite Moutère, évidemment, à l'époque. Et jusqu'à l'âge de 22 ans, quelque chose comme ça, 21 ans, il a eu une passion pour elle. Ça a été ses solistes vraiment aimés. Clara Askill, évidemment, Clara Askill, Dinu Lipati. Enfin, des gens qui étaient tellement au-dessus des autres. Il avait une passion, d'ailleurs, pour Rubinstein, elle avait une passion pour Horowitz. Et c'est seulement une question de timing qui a fait qu'il n'a pas pu diriger Horowitz, parce que sans ça, c'est pas Alexis qui serait opposé, parce qu'Alexis était un élève d'Horowitz et qu'il avait pour Horowitz une passion totalement réciproque d'ailleurs, de sorte que Karajan aurait très, très, très gentiment. Et pour vous me demandez si les gens avaient peur de lui. Les gens qui avaient des raisons d'avoir peur de lui, c'était ceux qui ne le connaissaient pas, profondément, et qui écoutaient ces gens qui jacassaient, comme dirait M. Sarkozy, qui jacassaient et qui parlaient tout le temps du Jet Set Society, etc., alors que c'était l'homme le moins mondain du monde. Il détestait les cocktails, il n'y a jamais été. Il ne recevait jamais personne à l'issue des spectacles ou des concerts. Quand par hasard, sa femme lui imposait pour telle ou telle raison diplomatique de voir un tel ou un tel ou un tel ou un tel, c'était pour lui une torture. Il n'avait qu'une idée, le spectacle terminé, c'est de partir et d'aller nager dans sa piscine pendant une heure avant de déjeuner ou de dîner. Et c'était un sportif, c'était un montagnard. Je ne peux pas mieux vous le décrire que le montagnard. À Salzbourg, il était né. À Salzbourg, il est enterré, à Hanif, en face de ses montagnes préférées, dans une petite tombe toute simple, entourée de cailloux, au pied de l'église, au pied de la petite église d'Hanif. Et c'était un homme qui disait toujours à ses enfants « Ne vous laissez pas influencer par les triomphes, les hurlements, les admirateurs, l'argent, tout ça peut disparaître du jour au lendemain. » C'est tellement vrai que lorsqu'il les a élevés au tout début, à Saint-Moritz, où il avait construit cette magnifique maison, qui était la seule maison qu'il ait vraiment construite, si vous voulez, comme une maison en ville, vraiment avec un grand soin. Tout le reste était extrêmement simple. La maison de Saint-Tropez était une maison de pêcheurs au bord de l'eau. La maison de d'Anif, je vous l'ai dit, était un chalet autrichien. À Saint-Moritz, il avait fait une très belle maison, un magnifique chalet, avec toutes les choses modernes, avec du marbre, avec une reproduction de la Dame à la licorne qu'il avait fait faire pour sa bibliothèque. Et là, c'était, si vous voulez, sa maison de réception. Il a reçu le Shah d'Iran. Là, il a fait quelques exceptions à cette règle. Mais pourquoi il a fait cette exception à cette règle ? Parce que le Shah d'Iran était lui-même d'une simplicité totale. Et que les gens qui étaient simples et qui étaient à sa portée, qui étaient avec lesquels il pouvait être lui-même. Et il n'avait pas besoin de feindre. Il les recevait volontiers. Mais les autres, niet.
J'aurais vraiment insisté sur cet aspect. C'était un peu Monsieur Dis qu'il a vraiment, il a enregistré comme, comme personne. Qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il sentait une sorte de pression? Est-ce que c'était le succès qui le poussait? Est-ce qu'il y avait peut-être est-ce qu'il y avait une sorte de, oui, de pression, même du business, j'allais dire, ou pas?
D'abord, le fait que, comme je vous l'ai dit, il était très éclectique. Et par conséquent, il avait des goûts très divers et il avait envie d'enregistrer presque tout. Et d'un. Et de deux, les moyens techniques l'ont permis de faire et de refaire et de refaire et de refaire et de refaire. Ensuite, il y avait quelquefois des interventions des maisons de disques qui, par exemple, insistaient beaucoup pour qu'il fasse l'intégrale des symphonies de Sibelius. Insistait beaucoup pour... par exemple, moi, j'ai essayé de le convaincre de faire la symphonie de Bizet, que j'adorais. Il adorait Bizet. Mais il m'a dit cette phrase extraordinaire, il m'a dit « Je ne peux pas faire cette symphonie de Bizet, parce que cette symphonie de Bizet, je ne la ferai pas aussi bien que Luitens. Et par conséquent, je préfère ne pas la faire. » Mais par contre, les choses... Je vous raconte une histoire merveilleuse. On avait enregistré la 9e de Mahler, qui est comme une espèce de testament. Et peu de temps après, nous avons été faire une tournée aux États-Unis, à Carnegie Hall, et il a dirigé la 9e de Mahler d'une manière tellement bouleversante que la salle entière pleurait, à commencer par votre serviteur. Je me suis précipité dès la fin de la symphonie et j'ai été dans le petit coin, là où les artistes se tenaient avant que les travaux ne soient faits dans Carnegie Hall et qu'on ait agrandi la pièce pour les artistes, etc. Je l'ai regardé bien dans les yeux et je lui ai dit « Herbert, c'était sublime, c'était sublime. » Je lui disais pas ça toujours. Il m'a regardé. Il a été salué. Il est revenu. Il m'a regardé bien dans les yeux et il m'a dit « Je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je la refasse ?» Et je lui ai dit « Oui, en public. » C'est pour ça qu'il y a eu une 2e, 9e de Mahler 6 mois après la première. Et les deux existent encore. Alors, ajoutez à ça que, par exemple, l'IMI tenait beaucoup à l'anniversaire Schubert d'avoir l'intégrale des symphonies de Schubert. Alors, de temps en temps, il fallait bien qu'il leur fasse plaisir, parce que pour obtenir, par exemple, soyons honnêtes, c'est peut-être un peu vulgaire de dire ça, mais en retour du fait qu'il avait fait un geste vis-à-vis de l'IMI, en enregistrant l'intégralité des symphonies de Schubert, qui n'était pas sa tasse de thé favorite, car il adorait l'Unfinished, il adorait la 9e, il adorait plusieurs, la cinquième de Schubert, mais il y en a certaines qui ne lui inspiraient pas une tendresse totale. Eh bien, il l'a fait parce qu'il savait qu'il fallait de temps en temps renvoyer l'ascenseur à une compagnie qui lui faisait un pont d'or, d'abord, qui le traitait comme une majesté vivante. C'est peut-être là où on l'a pris pour Louis XIV. Et il a quand même obtenu quelque chose que IMI ne lui aurait jamais donné, par exemple Péléas. Mais là, il a eu 27 séances d'enregistrement pour le Péléas. Il a eu 30 séances d'enregistrement pour faire Parsifal. Alors, ce
à côté donnant-donnant.
Là, voilà. T'étais pas donnant-donnant dans le sens vendeur de tapis. C'était une espèce d'entente tacite. Mais enfin, il est certain que c'est vrai qu'il n'avait pas avec les maisons de disques, je veux dire le top management, les relations qu'il avait avec l'équipe sonore et artistique. Ça, c'est certain.
À titre personnel, est-ce qu'il y a, il y a des enregistrements que vous placez personnellement au-dessus, qui vous touchent plus que d'autres, de Karajan?
C'est très très difficile à dire. J'ai bien entendu une passion pour le concerto de Tchaïkovski et le deuxième de Rachmaninov et les Beethoven avec Weissenberg, mais j'ai aussi pour les concertis de violon que Anne-Sophie Mutter a fait avec Karajan une passion. J'ai une passion pour le concerto de Schumann qu'il a enregistré avec Dino Lipatti, même concerto de Schumann qu'il avait joué au, au Trocadéro avec la Raskill quand je ne le connaissais pas, en 1953, et que je n'oublierai jamais dans ma vie entière. Je n'oublierai jamais les opéras qu'il a dirigés, le Chevalier à la Rose, où j'ai été dans la rue pleurer à l'entracte, à chaque entracte, au point que quand est arrivée la dernière représentation du Chevalier à la Rose, je suis parti dans le midi parce que je n'ai pas voulu être là pour la dernière, parce que je savais que ce serait la dernière. Pas la dernière de sa vie, mais, ou plutôt la dernière, le dernier chevalier. Mais il allait vivre bien des années après. Et je n'ai pas voulu. Et alors je suis allé chez des amis dans le midi, près de Saint-Tropez, et à 8 heures du soir, ou quelque chose comme ça, mes amis m'appellent au fond du jardin et me disent « Il y a Karajan qui t'appelle. » Alors, j'arrive. J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de diriger. » Il dit « Justement, j'ai simplement voulu vous faire honte parce que c'était la plus belle ce soir. »
Comment... Il y a une période où, effectivement, c'était un peu un intouchable. C'est-à-dire que c'était la, la star, c'était l'équivalent, j'allais dire, de Callas. C'était, on arrêtait Monsieur Tout-le-Monde dans la rue, on demandait de citer un nom de personnalité du monde classique, on citait Callas ou Karajan. Et il y a effectivement une période où ce côté un peu intouchable, il a commencé à avoir des critiques, etc. Comment il prenait un peu l'évolution? C'est-à-dire, vous avez, il a dit tout à l'heure que tout pouvait s'effondrer du jour au lendemain, il a été porté au pinacle, il y a eu des moments, justement, c'était plus chaotique.
Je vais vous dire un détail, mais un détail qui compte. Ses enfants, quand ils étaient petits à Saint-Moritz, il les a mis exprès dans l'école maternelle des villageois. Parce qu'ils ne supportaient pas l'idée de l'élite. Ils supportaient l'idée de l'élite en ce qui concerne la valeur. Il avait une passion pour toutes sortes de choses. La science, les progrès, le sport, la voile, le ski... L'avion qu'il conduisait, il était en train de travailler à conduire un hélicoptère lorsqu'il est mort. Il avait une passion pour tout, 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 tout. Il lisait des voitures, il lisait tous les magazines de sport, de voitures. Il avait des voitures formidables. Il avait une Ferrari, il avait une Rolls-Royce, qu'il n'aimait pas d'ailleurs, mais qu'il gardait pour faire plaisir à sa femme. Lui, ce qui l'intéressait, c'était des Porsche ultra rapides, des Maserati ultra rapides. Bon, mais la paradoxe de sa vie, c'est que la seule chose qui ne l'intéressait pas, et avec deux exceptions. Il y avait deux figures politiques qui l'intéressaient passionnément, c'était De Gaulle, dont il était le portrait d'ailleurs, dans son exigence et dans sa nécessité d'austérité, de tranquillité, de réflexion, de profondeur, de sérieux, mais aussi adorant rire, comme De Gaulle a fait rire les gens pendant des semaines entières. Avec chacune de ses conférences de presse, rappelez-vous, il y avait des centaines de journalistes du monde entier qui hurlaient de rire quand il a dit cette phrase extraordinaire « Beaucoup de gens craignent après mon départ le vide, moi je crains le trop-plein ». C'est quand même des chants extraordinaires. Alors, il adorait ça. Et le paradoxe de sa vie, alors la deuxième personne qu'il admirait infiniment, c'était Madame Thatcher. qu'il a invité à déjeuner et qu'il a gardé pendant 4 heures, oubliant sa sieste, il a gardé pendant 4 heures en demandant à Madame Thatcher de lui expliquer comment se conduit un gouvernement et un pays moderne. Car elle était en train de faire de l'Angleterre un pays moderne, que Blair a respecté. Eh bien, le paradoxe est le suivant. C'est que la politique ne l'intéressait absolument pas. Or, c'est là-dessus qu'on l'a attaqué. Les histoires de nazisme et tout ça, on a tout oublié. On a oublié qu'il était chef d'orchestre à Ulm, où il y avait tout de suite 25 musiciens. On a oublié qu'il était ensuite à Aix-la-Chapelle, qui n'était quand même pas la capitale de l'Allemagne. On a complètement oublié que M. Böhm était directeur de l'opéra de Vienne et de Munich. On a complètement oublié, on a épongé le cas Furtwängler, qui était directeur de la Philharmonique de Berlin, depuis l'arrivée du nazisme jusqu'en 1945, qui a dirigé la 9e de Beethoven au fameux meeting de Hitler à Nuremberg. Et là, personne n'en a parlé. C'est drôle. Et par contre, Karajan, on avait un angle où on pouvait essayer de l'attaquer et où il ne pouvait pas se défendre. C'est celui-là qu'on a choisi. Et puis, alors sur le plan musical, un détail, mais très important, les critiques ont passé leur vie à penser que tout était tripatouillé dans la post-production, dans l'enregistrement, que tout ça, c'était des histoires de micro, que c'était fait pour avoir une sonorité admirable, etc., mais que, en fait, c'était artificiel. Alors, je vous donne un exemple. Dans le deuxième de Rachmaninoff, il y a des accords de piano qui commencent et qui vont pianissimo, 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 de moins en moins piano, puis la, fa, sol, sol, do. Eh bien, j'ai reçu je ne sais combien d'emails de Londres. Enfin, ce n'était pas des emails, c'était des telex à l'époque, ou des télégrammes, disant que ce n'était pas possible qu'un piano ait une telle dynamique et que forcément, le potentiomètre avait marché pour faire en sorte que les pianos soient pianos et les fortés soient fortés. Eh bien, c'était faux. Ça avait été exactement le reflet de la vérité. Et on n'avait pas touché un potentiomètre pendant ce crescendo. Et ça, c'est un exemple parmi 100 000 autres.
Thank you.
sont un peu les derniers souvenirs que vous gardez de Karajan à la fin de sa vie?
Le dernier souvenir que j'ai de Karajan, c'est l'enregistrement qu'on a fait de la cinquième de Bruckner à Vienne en avril 2009, 1989, qui est son dernier enregistrement. Et avant, on avait fait en février 89 le Bal Masqué, qui a été son dernier opéra enregistré avec Placido Domingo et Nucci, et la Philharmonique de Vienne, et qu'il était en train de mettre en scène avec le metteur en scène américain qui vient de mourir, qui avait fait Midnight Cowboy.
John Schlesinger,
exactement. Qui avait fait une somptueuse mise en scène avec laquelle Karajan avait collaboré 100%. Et le dernier souvenir, ça a été, je ne l'ai plus vu après avril. Et je devais arriver à Salzbourg pour les répétitions du Bal Masqué, parce que j'avais promis aux artistes et à Karajan d'y être. Et j'étais chez des amis, un 14 juillet, à la campagne. Il a téléphoné chez moi à Paris, ne sachant pas que j'étais pas chez moi. Il a appelé à 11h, 11h30 du matin. Mes domestiques me l'ont dit. Et ils ne connaissaient pas le numéro de téléphone de mes amis, donc ils n'ont pas pu lui donner. Et il est mort à 13h30. Donc il m'a téléphoné 2h30 avant de mourir.
On fête donc le centième anniversaire de sa naissance. Avec le recul, avec les années, avec tout ce qui s'est passé, quel héritage musical, je parle vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Herbert von Karajan aujourd'hui, selon vous?
Alors il reste un immense héritage qui ne sera jamais oublié dans l'histoire de la musique, comme Maria Callas ne sera jamais oubliée ni remplacée. Mais il faut dire que ce qui a changé par rapport à Maria Callas, c'est qu'elle n'a pas eu, hélas, de successeur ni d'élève, vraiment, à proprement parler. Tandis que Karajan a beaucoup enseigné, beaucoup aidé les jeunes, et était passionné par la jeunesse, et qu'il est responsable de la carrière de Abbado, de Muti, de Tillemann, d'Ozawa, de Levine, de tant et tant et tant de jeunes, d'Emil Tchakarov, qui était son élève, et qu'il a laissé derrière lui une sorte de tradition qui ne peut pas être mieux en valeur que ce que je vais vous raconter maintenant. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois ou l'année dernière, j'ai entendu le Stabat Mater de Pergolèse par Riccardo Muti au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre National de France. Et il y avait des pianissimi qui étaient tellement flottants et tellement immatériels que j'ai eu l'impression de réentendre Herbert. Et je suis allé voir Riccardo, que je vois toujours très proche, Gergiev qui a eu son prix, Gergiev est en admiration devant lui, comme tous ces gens. Tillemann est complètement gaga devant lui. Carlos Kleiber a été son élève et son admiration. Il avait la capacité de s'enthousiasmer pour les autres. Voilà. Alors, ce qui reste de lui, c'est un phénomène héritage.
Excusez-moi de vous interrompre, je voulais juste vous terminer votre anecdote sur Mouti que vous êtes allé voir après la représentation.
J'ai tendance à faire des digressions. J'ai été voir Riccardo et je lui ai dit, je n'oublierai jamais ce pianissimo dans Pergolèse. Il m'a regardé et m'a dit, « Pourtant, tu connais. » J'ai dit, « Pourquoi ?»« Mais c'était Herbert. » Ce pianissimo lui a été, d'une manière générale, ce que Karajan appelait la culture des instruments. C'était la civilisation, le poli, la continuité, le phrasé. Comme disait Karajan, une note à côté d'une note, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est d'aller d'une note à une autre note. C'est ça le phrasé. Et quand il n'y a pas de phrasé, pas de son et pas de rythme, il n'y a pas de musique.
Ben, je crois que nous, on va se quitter sur cette dernière anecdote. Michel Glotz, je vous remercie et à bientôt.
Merci à vous.
Rencontre par Marc Zisman.